Fantastique, c'est que du bonheur. Alors pour l'instant, c'est pas que du bonheur parce qu'il nous manque du monde. Donc nous avons Sir Cédric qui a sans doute été capturé par un troupeau de fans échevelés qui est en route et qui va arriver. Loïc Le Borgne est pour l'instant en perdition dans un univers parallèle. On le cherche, mais c'est du fantastique. Donc nous allons quand même démarrer cette table ronde avec deux auteurs et puis au fur et à mesure, ceux qui manquent nous rejoindront. Anne Fakhouri, qui écrit déjà depuis un petit moment et dont l'ouvrage Le Clairvoyage avait été très remarqué et primé, qui a sorti Narcogénèse en 2011, dont elle va nous parler, et qui, par ailleurs, dans la vie, est enseignante.
Ne dites pas ça.
Il fallait pas le dire, mais c'est du fantastique. Mélanie, qui est donc traductrice et écrivain, et qui partage son activité entre ces deux pôles, qui est, je dirais, entre guillemets, la voix du fantastique français, puisque c'est vraiment un genre duquel elle se revendique et dont la totalité des textes, finalement, touche ce domaine, et qui, autre particularité, écrit beaucoup de nouvelles. Parce que bon, elle nous expliquera aussi pourquoi cette forme-là peut être adaptée au genre dont nous allons parler. Je présenterai les autres quand ils arriveront. Déjà, j'avais envie de vous demander à toutes les deux, qu'est-ce que c'est que le fantastique pour vous? Parce que là, il peut y avoir moult définitions. Et peut-être que vous avez eu envie de vous approprier un peu ce genre-là. Et donc, comment est-ce que vous ressentez cette littérature, Anne?
Très bien. Le fantastique, pour moi, est un passage. Avant tout, on sait bien qu'il y a plusieurs genres de fantastique. Moi, j'aime quand c'est une toute petite porte ouverte vers un autre monde qui parfois déborde. Évidemment, ce sont des incursions, mais aussi des excursions qui débordent sur le nôtre. Du coup, j'aime un fantastique que j'ai découvert enfant. C'est pour ça que j'utilise beaucoup les peurs enfantines. Dans mes romans, c'est-à-dire l'idée que derrière la réalité, par cette petite porte, par le terrier du lapin, par une tornade au milieu du Kansas, on arrive dans un autre monde où les règles sont complètement différentes. On peut être dans le non-sens, ou au contraire dans des choses qui font vraiment sens. Donc voilà ce que j'aime dans le fantastique, c'est vraiment c'est un univers onirique.
Oui, et c'est peut-être le moment où d'un coup on franchit le pas et où les choses sont décalées.
Complètement décalé, où on finit par du coup voir la réalité par un autre angle et par y trouver des choses qu'on peut rapporter dans notre monde. C'est vraiment ce voyage immobile dont parlait Colette pour d'autres choses, mais ce principe de littérature, de voyager en étant immobile et de rapporter, voilà, des souvenirs de voyage, une espèce de tourisme onirique où finalement on transforme ce qu'on a apporté. Voilà.
Mélanie?
Moi, quand on me demande des définitions, j'ai tendance à parler de basculement. C'est-à-dire que le fantastique qui m'intéresse, il se passe ici et maintenant au départ, dans des décors qui sont le plus réels possible, qui sont des lieux qu'on connaît, qu'on a tous visités, tous rencontrés. Des personnages ordinaires qui pourraient être nous, notre voisin, ou vraiment des personnages qu'on peut croiser dans la rue. Et à un moment donné, ces personnages sont placés face à quelque chose qui bascule. D'un seul coup, on est dans autre chose, le monde n'est plus aussi réel qu'on le pensait, il n'est pas tout à fait comme on pensait. Il peut y avoir, comme dit Anne, une porte qui s'ouvre sur autre chose, ou bien on entrevoit peut-être l'envers du décor, quelque chose qu'on n'avait pas vu jusque-là. Et je suis très intéressée par la dimension notamment, j'allais dire psychologique, c'est peut-être un grand mot, mais qu'est-ce que le fantastique peut refléter des peurs des personnages, des failles des personnages? C'est souvent, et si le personnage finalement apportait lui-même ce dérapage dans le monde? Et si finalement ça pouvait venir des angoisses qu'on a de quelque chose, de choses qui remontent du passé, des choses comme ça. Et si finalement le surnaturel n'était pas une menace extérieure qui à un moment donné arrive et qu'il faut renvoyer d'où elle vient. Et si finalement ce qui est de plus étrange et de plus effrayant c'était en nous et que ça ressortait par ce biais. Et j'ai tendance à parler aussi du langage des rêves parce que plus j'avance comme lectrice ou auteur et plus je trouve qu'il y a un parallèle. Le langage des rêves, ça nous parle de la réalité, mais en utilisant un langage qui est complètement déformé. Une image va vouloir dire autre chose. Et je trouve que le fantastique permet ça. C'est des métaphores qui sont, je ne sais pas comment on peut dire, qui sont concrétisées. D'un seul coup, on prend une image au pied de la lettre. et quelque chose qu'on n'arrive pas à dire autrement peut être montré par ces images.
D'accord. Alors, Mélanie, donc toi, tu as choisi vraiment d'écrire du fantastique et de n'écrire que ça. Pourquoi ce choix particulier ?
En fait, c'est intéressant parce qu'on me pose souvent la question en ces termes. Et il faut que je précise, je suis arrivée dans un contexte éditorial il y a 10 ans où on ne publiait plus de fantastique du tout parce que ça ne se vendait pas. Et où l'insistance à vouloir en écrire, c'était un peu suspect. Où on me disait, tu veux pas écrire, c'était le mode du steampunk, tu veux pas écrire ça ou de la fantasy. Et je l'ai jamais fait, c'est pas tellement par choix conscient ou pour m'obstiner, c'est que moi c'est mon langage, je sais écrire que ça. Si j'avais pas pu en publier, ben j'aurais continué à écrire sans publier, mais je suis pas sûre, je pourrais très bien écrire quelque chose qui n'est pas d'éléments surnaturels, mais ça manquerait un peu, je pense. Et la fantaisie, la création d'univers, je peux pas. La science-fiction, le côté prospectif, je trouve ça génial, mais c'est pas un langage que je maîtrise. Moi, il se trouve que mon langage d'écriture, c'est celui-là. C'est quelque chose qui me parle depuis très longtemps et j'ai pas choisi, en fait. C'est venu comme ça, je sais faire que ça, finalement. Donc, le choix ne s'est jamais posé.
D'accord. Anne, toi, en revanche, tu as aussi exploré d'autres genres.
Oui, mais ça s'est imposé avec le clairvoyage, puisque le premier tome se passe dans notre monde. Clara est une petite fille qui découvre qu'effectivement, il y a des portes et qui finit dans un terrier. Voilà. Et le deuxième tome, du coup, se passe dans le monde des fées. Donc, j'étais obligée d'aller vers la fantaisie, vers la quête, vers un monde inexploré et une aventure différente. À l'origine, j'écris beaucoup de littérature générale. Mais finalement, à force d'en écrire et à force d'utiliser des motifs très, très poétiques et très oniriques, j'ai pris un parti qui était celui d'écrire du fantastique, d'y aller carrément. Voilà. Mais je suis en train d'écrire de la science-fiction.
Oui, voilà. Donc, et ça parle de quoi ?
D'un voyage dans le temps, dans le passé. C'est un hommage à Retour vers le futur.
D'accord. Alors, y a-t-il des outils pour écrire du fantastique, des recettes, y a-t-il plusieurs branches dans le fantastique ? Alors, c'est un petit peu dommage que Cédric soit pas encore arrivé, parce que notamment Cédric, lui, a un fantastique qui bascule éventuellement vers l'horreur ou vers la terreur. Est-ce qu'il y a des sous-genres ? Est-ce que duquel vous vous rapprocheriez le plus ? C'est, comme je disais, des recettes ou des outils pour matérialiser ce basculement ?
Alors les recettes c'est pas trop mon truc. En revanche, effectivement, on peut utiliser des personnages. Enfin, c'est dans les Princes d'Ambre de Zelazny où en fait notre monde est l'ombre, la projection d'un autre monde. Et je trouvais ça intéressant dans Arc Jeunesse finalement de faire des projections d'un autre monde dans le nôtre. Et c'est comme ça qu'est venu le personnage du marchand de sable. Je suis partie de ce personnage de conte qui, au fond, est absolument terrifiant. Il jette du sable dans les yeux des enfants pour les endormir. C'est un sadique, en quelque sorte. Et du coup, ce marchand de sable dans son propre monde est devenu une sorte de Freddy Krueger, un monstre, véritablement. Malgré lui, la projection lui-même de fantasme, un monstre qui détruit les enfants, qui détruit leur esprit. Donc effectivement, utiliser des choses courantes, des personnages connus, traditionnels, et imaginer que leur histoire se situe dans un autre monde, on est déjà dans un motif complètement fantastique et dans une utilisation de ce qu'on connaît pour, comme disait Mélanie, pour le décaler, pour le faire basculer. Après, j'aime la frontière, j'aime la définition du fantastique de Todorov, qui est basée sur le 19e siècle et qui nous dit en fait que on peut avoir plusieurs explications, une explication rationnelle et une explication fantastique à un même événement. Et c'est ce que j'ai utilisé dans Arc Jeunesse, puisque normalement, c'est le lecteur lui-même qui décide quelle explication est la bonne.
Oui,
c'est pour ça. Donc, moi, dans la mienne, ça n'était pas non plus.
Je peux vous chanter quelque chose, mais bon, on va attendre Sir Cédric.
Alors, vous voyez,
d'accord.
Nous sommes en plein dans le basculement de réalité, c'est intéressant, parce que là, je suis en train de cyclotronner le festival. Alors, je vous explique le cyclotron, ce que c'est quand même, parce que c'est un concept fantastique à soi tout seul. D'ailleurs, Mélanie a été témoin d'un certain nombre de cyclotronnages en règle. Le cyclotron, c'est le moment où l'espace-temps se met à basculer, des choses étranges arrivent. Alors, apparemment, cette conférence est cyclotronée, puisque Sophie vient d'arriver, donc vient d'apparaître, et donc Sophie, au départ, n'était pas prévue sur cette conférence. Après, on apprend qu'elle est sur le programme. Sur une autre version, elle n'y est plus. Enfin voilà, donc Sophie nous rejoint. Voilà, ça fait partie de... Hop là ! Vous avez vu comment j'ai matérialisé une étiquette ? Ça aussi, c'est fantastique. Donc, on va la mettre par là. Alors donc, du coup, je pense qu'ils sont partis chercher les livres. Donc voilà, bah, c'est pas grave, hein, on y va à la rame, on rattrape le truc. Oui, les livres sont là. Oui, Sophie. Donc, bon, on les laisse là pour l'instant. Donc voilà, où en étions-nous ? Donc tu venais de finir.
Ça fait plaisir d'être écoutée. J'étais passée par Todorov. Il y avait Todorov.
Voilà,
voilà. Et de Todorov et de la frontière, en fait, de plusieurs explications du fantastique, enfin d'un même événement, un événement très rationnel. Est-ce un rêve ? Est-ce que finalement c'était une hallucination, un rêve ? Ou est-ce que ça s'est vraiment produit ? Est-ce qu'on est vraiment dans le fantastique ? Et le fait que j'aimais vraiment que le lecteur ait le choix. Entre deux explications qu'il voilà et je continue, je ne chante toujours pas, non, je ne fais pas de claquettes non plus, mais et donc voilà, c'est peut-être pour ça que j'ai du mal avec les univers, une forme entre le fantastique et la fantasy urbaine. Effectivement, quand des créatures surnaturelles vivent parmi nous, j'ai un petit peu plus de mal. Ça marche quand elles sont vraiment très, 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 très cachées, comme dans Sorcières de Roald Dahl, par exemple, en jeunesse. Effectivement, quand elles se déguisent. Mais quand on accepte cette idée, j'ai un petit peu plus de mal. J'aime bien quand le fantastique est entouré vraiment de mystères et d'interprétations personnelles.
J'ai tendance à dire, effectivement, il y a cette définition assez ancienne qui a été donc donnée par Todorov. C'est un fantastique que j'aime assez, qui fonctionne sur cette ambiguïté. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est d'adopter le point de vue d'un personnage dont on ne sait jamais s'il est fou ou s'il a réellement basculé dans le surnaturel. Et je dirais que moi, l'autre courant qui m'intéresse dans le fantastique et qui se rapproche plus de ce que tu disais, c'est et qui pour le coup ne marche pas avec la définition de Todorov, c'est le point de vue du monstre. Et c'est quelque chose qui, notamment, j'adore ce qu'on a fait Anne Rice au moment d'Entretien avec un vampire, ce qui, je crois, n'avait jamais été fait à l'époque. C'est le vampire, c'est plus cette créature qui s'introduit chez nous de nuit qu'il faut chasser, ou d'un seul coup on est du point de vue du vampire. Qu'est-ce que c'est d'être un vampire et quel est le rapport qu'on peut avoir à sa propre humanité ou au reste de l'humanité? Je trouve que ça ouvre des perspectives fabuleuses, et moi j'aime beaucoup passer d'un type de fantastique à l'autre. Et c'est une des parties, en fait, j'adore le fantastique qui parle du monstre non pas comme une menace, mais le monstre qui est en nous, et si on était le monstre, qu'est-ce que c'est de raconter le monde ordinaire vu du point de vue d'un monstre. C'est pas spécifique au fantastique, parce que j'allais dire, j'ai trouvé ça vraiment formidable dans une série télé comme Dexter, qui pour le coup est une série policière, mais qui nous place du point de vue d'un monstre qui est extrêmement poignant et qui montre son regard sur le monde. Donc c'est pas spécifique au fantastique, mais je trouve qu'il le fait très bien notamment.
Alors nous allons accueillir donc Sophie Loubière, qui a beaucoup travaillé en radio, donc sur de l'animation d'émissions, sur des feuilletons radiophoniques, sur magazines d'actualité. Enfin, il y a une longue carrière là en radio. Et puis en 2010, une décision de se consacrer à l'écriture.
En 99.
En 99.
Ça fait 10 ans que j'écris.
D'accord, ok.
Mais effectivement, j'ai un roman qui est sorti là en 2011,
ouais,
et
voilà.
Un autre en
donc,
2009.
Voilà. Et donc, effectivement, il y a les deux. Alors moi, j'avais particulièrement entendu parler de L'enfant au caillou, donc un roman noir.
Oui, alors c'est vraiment intéressant ce que disait Mélanie, c'est ça ? Parce que j'ai justement, dans ce roman, rejoint cette idée du monstre intérieur, puisque le personnage principal est une petite mamie très, très sympathique, très intelligente, une ancienne institutrice à la retraite, avec beaucoup de subtilité, sauf qu'à l'intérieur, il y a une fêlure qui va amener une interrogation justement sur ses... ses intentions. Est-ce qu'elles sont bonnes? Est-ce qu'elles sont mauvaises? Est-ce que ce qu'elle ressent de la réalité, est-ce qu'elle en, ce qu'elle en fait est logique, ou est-ce que ça a trait à la folie? Donc pour moi, le fantastique dans toutes mes œuvres est toujours très lié comment dire, à la folie. Voilà, c'est, pour moi, la frontière, elle est là. Est-ce que le monde qu'on imagine, est-ce que les choses qu'on fait, finalement, sont dans une dimension intérieure ou une dimension qui relève du fantasme? Voilà. Pour l'enfant au caillou. Et sur le précédent, qui se passe à San Francisco, on a aussi un monstre intérieur sur un personnage féminin, mais qui porte en elle quelque chose de son passé qui ne sera révélé qu'à la toute fin du livre, dans les toutes dernières pages. Et pendant tout le livre, il y a une absence de questionnement total sur ce personnage, puisqu'à aucun moment il y a une fêlure. Et à aucun moment, elle a juste mal au ventre, et elle est parfois très 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 mal dans son corps, mais elle va elle-même aller creuser la tombe dans laquelle elle va tomber. Quoi. Symboliquement, c'est ça. Tout ce livre, c'est ça. Sauf qu'elle ne le sait pas. Elle marche vers l'échafaud sans le savoir, puisqu'elle ignore ce qui s'est passé dans sa vie précédemment. Oui, ça a l'air un peu morbide comme ça, mais ça n'est pas du tout.
Donc, oui, ça s'intitule Dans l'œil noir du corbeau. Donc,
c'est pas gay non plus, mais bon, c'est pas gothique.
Donc effectivement, donc là, il va y avoir un... C'est pas gothique. Alors, en parlant de gothique, justement... Ah bah.
Ça y est, on est au complet.
Regardez le fantastique, quand même, c'est merveilleux. Donc voilà, nous avons Loïc qui vient d'arriver et Cédric.
Qui se confond en excuse de son retard, mais j'étais en intervention à l'autre bout de la ville.
Et non, mais c'est pas grave, de toute façon, juste, voilà,
on est arrivés les uns après les autres.
Vous n'avez pas su, mais en fait, voilà, cette table ronde a été marquée par un phénomène très fantastique qui fait que des apparitions, des gens qui sont arrivés au compte-goutte, des gens qui étaient prévus, pas prévus, reprévus. Enfin voilà, donc c'est l'exemple de ce que c'est qu'une conférence cyclotronée. Donc on revient sur dans l'œil noir du corbeau, avec donc un personnage d'une Bridget Jones à la française et puis d'un misanthrope américain. Et puis quelque chose où on est aussi pas loin, je dirais, un petit peu d'une enquête.
Oui, c'est un vrai roman policier dans la mesure où ce personnage de Anne Darnay qui en fait cuisine à la télévision, elle fait des fiches cuisine comme vous pouvez en voir souvent des animatrices.
Il y en a dans le livre. Hein.
Et à la fin du livre, il y a des fiches cuisine. Ouais. Quand j'ai écrit ce livre, j'ai voulu faire un mélange de Vertigo, d'Hitchcock. Enfin, les deux influences que j'avais, c'était Vertigo, d'Hitchcock et le Festin de Babette. Parce que j'aime énormément le cinéma noir et aussi j'adore cuisiner, j'adore manger. Et donc je voulais lier les deux, et ce roman à la base est inspiré par ce qui m'est arrivé étant jeune fille. Je suis tombée amoureuse à 16 ans d'un jeune homme rencontré sur les pistes de ski de Bussan. Donc voilà, c'est une histoire de voisinage. Et ce garçon m'a hantée pendant une vingtaine d'années. Et pendant 20 ans, je l'ai quelque part gardé en moi. Je l'ai attendu, je l'ai espéré à la sortie du bus, quand je revenais de l'école. Je l'ai espéré à tout moment de ma vie, le croiser dans la rue. Et pendant 20 ans, il m'a littéralement obsédée. J'en avais fait une espèce de quête, une espèce d'homme idéal. Et ce profil-là est celui du personnage d'Anne, qui, donc à la quarantaine, décide de prendre l'avion pour la première fois de sa vie et d'essayer de retrouver ce jeune homme qu'elle a rencontré, donc à Bussan, elle aussi. Sauf que son jeune homme à elle, il habitait pas Valenciennes comme le mien, il habitait à San Francisco, ce qui est quand même plus exotique. Donc elle prend l'avion pour essayer de le retrouver. Et c'est là que les choses vont se compliquer, puisqu'elle va en fait tomber sur un jeune homme qui est décédé depuis 18 ans. Donc elle a attendu un fantôme pendant presque 20 ans. À partir de là, il y a une enquête, donc elle souhaite réouvrir l'enquête sur sa mort parce que les choses lui semblent pas du tout claires. Et c'est là qu'elle va rencontrer cet homme d'une soixantaine d'années qui n'a qu'une seule chose dans la vie. C'est la bouffe. Il adore cuisiner sur son bateau flottant dans la baie de San Francisco. Mais à chaque Noël, il est très malheureux parce que personne ne veut réveillonner avec lui, parce qu'il est très violent, parce qu'il a eu des soucis dans son métier, avec l'alcool, avec et puis sans doute lié à son passé. Et donc, quand elle débarque sur son bateau, avec son projet d'enquête à réouvrir qui le gonfle faramineusement. Mais comme il voit que c'est la même nana que celle qui cuisine des fiches cuisine sur une chaîne câblée qui est reçue à San Francisco, qui est TV5 Monde, et là il se dit qu'il a peut-être enfin, pour la première fois de sa vie, une chance qui se présente à lui, quelqu'un qui va cuisiner pour lui le plus fabuleux festin de Noël. Donc c'est comme ça que les choses se lancent. Et après, il y a tout le décor de Vertigo, puisqu'ils sont dans la forêt de Muirwood, et il y a tout un passage sur la résilience et le passé des personnages qui va amener ce livre vers cet aspect fantastique.
D'accord. Cédric, donc, une voix particulière aussi dans le fantastique, puisque là, alors déjà souvent thriller, une écriture toute en tension. Et un fantastique qui bascule, enfin qui est très orienté sur la peur, parfois l'horreur, oui, comme dans L'Enfant des cimetières, là où on est vraiment, on a peur, ou même dans Le jeu de l'ombre, où finalement ça fait aussi assez peur.
Je ne sais pas ce qui a été dit avant, mais peut-être, oui, Le jeu de l'ombre, c'est, je pense, mon livre le plus fantastique au sens historique de la définition du dictionnaire. Qui est le doute, je ne sais pas si vous en avez parlé ou...
Vas-y, j'avais demandé à chacun sa propre définition du fantastique. Je la redemanderai aussi à Sophie, bien qu'elle nous ait donné déjà quelques pistes.
C'est pas forcément la mienne en fait, en tout cas c'est celle qui est la plus communément admise, qui est que le fantastique c'est le moment où on doute de ce qu'on a vu, de ce qui se passe, les revenants existent-ils ou pas, ou ce qui s'est produit est-il, voilà, d'où viennent ces bizarreries qui traversent nos vies à des moments donnés. Et donc dans ce cas de figure-là, effectivement, Le jeu de l'ombre, c'est peut-être mon livre le plus fantastique à ce jour, puisque jusqu'à la fin, on ne sait pas si ce qui se produit est réel, si c'est la folie du personnage, et j'espère même, après l'épilogue, que les lecteurs peuvent être partagés. Certains vont penser que, enfin, selon moi, il y a du vrai surnaturel dedans, mais on peut aussi lire ce livre en se disant que finalement, c'est peut-être tout a peut-être été imaginé et réinterprété par le personnage.
Puisque le point de départ, en fait, c'est une rockstar qui a un accident de voiture, voilà, et qui d'un coup bascule dans le cauchemar.
Disons que c'est un musicien qui, après un concert, on ne sait pas pourquoi, lui-même finalement c'est un peu trouble dans ses souvenirs, il a commencé à oublier, il était bon ivre, il a pris de la drogue, il avait besoin d'être seul, il prend sa voiture, il se met à rouler très 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 vite sur les routes de l'Aude et passe dans un petit village, traverse un pont qui est le pont du diable, on en a beaucoup dans le sud, avec toujours une légende assez bizarre à coller à ce pont, et donc quitte la route, il fait des tonneaux, il fait une chute de 30 mètres et il s'écrase en bas sur les rochers et il en ressort miraculé, à une différence près, c'est quand même qu'il a un traumatisme inexplicable, c'est que à partir de là, il n'entend plus la musique, alors que la musique était sa vie. Il entend tout, son cerveau marche, il entend les gens parler, mais s'il met la radio, il ne va pas entendre les chansons qui y passent, parce que voilà. Ça, et les médecins n'ont pas d'explication, et à partir de là, il se passe des choses très bizarres autour de lui. Une mystérieuse ombre, l'ombre du titre, se met à jouer avec lui, à le menacer, à le harceler, à tuer des gens dans son entourage. Et voilà, et petit à petit, il y a une sorte de crescendo qui se crée dans le dérapage de la réalité. Mais en fait, pour moi, le fantastique avant tout, c'est, j'ai l'impression, enfin en tout cas pour moi, c'est un regard différent sur le monde qui nous entoure. Et quand j'écris, c'est surtout finalement mon propre regard sur la réalité quotidienne, sur la manière dont je perçois les choses, et que j'essaie en fait de représenter un petit peu les émotions qui nous traversent en images. En essayant d'avoir quand même des situations intéressantes et hors du commun. Et pour moi, le fantastique, c'est un petit peu ça. À mes yeux aussi, le fantastique, c'est vraiment le genre qui explore notre ego, notre personnalité. C'est un genre psychanalytique, introspectif par excellence, et qui parle vraiment de l'être humain, à la différence de la science-fiction, qui a plutôt vocation de parler de la civilisation et de la société dans son ensemble. Qu'est-ce qu'on devient, comment on s'organise dans le futur, ou par rapport à l'écologie, ou dans des groupes d'individus, en fait. Et la fantaisie, qui, elle, est davantage le genre de la quête initiatique, et finalement, qui va parler de notre place dans l'ordre des choses, par rapport aux forces naturelles, par rapport aux dieux. Et donc, pour moi, donc, le fantastique, c'est plutôt vraiment c'est le hors-là de Maupassant, quoi. C'est vraiment ça, c'est ce côté exploration personnelle de nos angoisses, de nos peurs, de nos désirs, et de nos relations aussi humaines avec l'autre, et notamment donc dans Le jeu de l'ombre, mon personnage donc de musicien qui s'appelle Malco Swan, qui après son accident et son traumatisme, petit à petit, avec ce qui lui arrive, commence quand même à se rendre compte à quel point c'est un pourri, quoi. C'est quand même un mec imbu de lui-même, égoïste, hein, qui n'a jamais réellement communiqué avec même ses propres amis, qui a passé son temps à essayer de se prouver des choses idiotes en termes de conquête féminine. Et c'est vraiment un mec détestable, hein, et il s'en rend compte petit à petit, mais c'est trop tard. D'autant plus que la personne qui le harcèle visiblement lui reproche quelque chose, et il n'arrive même pas à savoir quoi. Quelle est cette chose horrible qu'il a pu faire et pour laquelle il est en train de payer dans des conditions assez donc fantastiques. Voilà.
Donc Loïc Le Borgne qui est arrivé. Donc Loïc est journaliste.
J'étais.
Était journaliste et a écrit notamment des romans pour ados et enfants sous le pseudonyme de Loïc Léo. Puis finalement a repris son nom.
Alors c'est Loïc Léo qui vient d'apparaître en fait depuis un an. Tous les autres romans, je les écris sous mon vrai nom.
Donc, d'accord, d'accord. Donc ben, le fantastique, on a déjà ce roman-là, Je suis ta nuit.
Celui-là, pour l'instant, c'est même le seul que je pourrais qualifier de fantastique en réalité.
Oui, puisque les autres sont plus
plutôt science-fiction.
Ouais.
Mais j'aime bien jouer sur les frontières aussi, ne pas rester dans des catégories.
Oui, parce que dans le sang des lions, on a aussi un jeu là sur la frontière.
Une frontière avec le fantastique ici aussi, avec il y a une inspiration des cultures aborigènes. J'aime bien inclure dans la science-fiction justement une petite part de fantastique, plutôt de dire qu'il puisse y avoir un doute. Hein. Je me retrouvais dans ce que disait Cédric. Oui. Je crois aussi que ce qui est vraiment intéressant, c'est toujours cette frontière entre le réalisme et le côté fantastique. Pour moi, le fantastique, c'est quand une créature, hein, en résumé, une créature va apparaître dans le monde d'aujourd'hui ou dans le monde futur, à partir du moment où il est considéré comme réaliste et cohérent par rapport à ce futur. Donc j'aime bien jouer là-dessus. Je crois que j'ai lu Arliss aussi et je m'y suis tout à fait retrouvé, je l'avais dit d'ailleurs. Ça m'avait vraiment frappé ce roman parce que c'est tout à fait les thèmes que j'aime. Alors en plus, quand il y a la dimension de l'enfant, c'est vrai que l'enfant, ça se prête vraiment à ça. Déjà, c'est plus inquiétant quand un enfant est lui-même source d'angoisse, qu'il ressent aussi toutes ces angoisses. L'enfant, c'est vraiment souvent, d'ailleurs, à la frontière avec l'adolescence, c'est vraiment cette période où nous-mêmes, en tant qu'auteurs, d'ailleurs, sûrement, on s'y retrouve parce qu'on mélange assez facilement le monde irréel, virtuel, et puis la réalité. Et on adore passer de l'un à l'autre. Alors les auteurs adorent encore plus, peut-être qu'ils gardent ça un peu plus longtemps que d'autres, mais c'est vraiment une période où on a souvent des terreurs nocturnes, où on a des peurs comme ça, qui paraissent après coup, quand on est adulte, déraisonnables, mais qui en réalité s'expliquent parce que les enfants mélangent vraiment toujours ces deux univers. Alors dans Je suis ta nuit, c'est vraiment axé là-dessus. D'ailleurs à la fin aussi, le lecteur peut se dire, est-ce que c'était finalement un policier, un thriller, donc réaliste, où j'ai envie qu'il se pose la question. D'ailleurs, j'ai pas forcément moi-même la réponse. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que l'auteur l'est pas vraiment lui-même. Ou est-ce que c'est un roman fantastique, effectivement? Est-ce que ce monstre existait?
Oui, parce qu'en fait, dans ce roman, on a six gamins, six copains qui se promènent en Bretagne et puis qui tombent sur le cadavre d'un vagabond.
Voilà, ça commence par cette découverte de cadavre.
Il y a des choses assez extraordinaires qui vont arriver.
Voilà, donc au début, c'est effectivement, ça peut être un thriller, des enfants tombent sur un cadavre mutilé. Donc, voilà, oui, on m'a souvent fait ce genre de référence. Mais après, justement, j'aime bien jouer sur cette ambiguïté. Stan Maimi, c'est vrai que... Enfin, donc, la nouvelle de Stephen King, qui elle, n'est pas du tout fantastique, en réalité... Après, je partais sur cette légende du bonhomme nuit qui existe. Hein. C'est une légende dans la région de Saint-Brieuc, en Bretagne, où en fait, ce bonhomme nuit, c'est simplement le père Fouettard. Hein. C'est comme ça qu'on l'appelait. Mais je trouvais que l'expression de dire aux enfants, alors si vous n'êtes pas sage, le bonhomme nuit va venir vous chercher, moi, ça m'aurait terrifié. Hein. on m'aurait dit à 10 ans le bonhomme nuit, on ne sait pas trop ce que ça peut signifier. En tout cas, ça ouvre les portes de l'imaginaire, c'était sûrement le but d'ailleurs. Hein. Le but c'était de faire rentrer les enfants qui couraient un peu trop longtemps dans les champs il y a une centaine d'années. Donc évidemment, à la nuit tombée, quand il y avait ce monstre qu'ils imaginaient errer autour, ils rentraient sans que les parents aient besoin d'aller les chercher dans les champs. Donc voilà, là, ils vont commencer à se demander, est-ce que ce bonhomme nuit est créé par une espèce de phénomène d'hallucination collective, d'autant qu'il y a un garçon qui est quand même très particulier dans cette bande, qui vient d'arriver, on ne sait pas trop qui il est, c'est Maël. Bon, Maël, en plus, c'est un nom qui peut prêter à différentes interprétations. Et puis, les autres enfants sont embarqués dans cette histoire. Alors, est-ce qu'ils sont traqués par un véritable tueur ou est-ce qu'ils ont imaginé toute cette histoire autour de la folie d'un enfant, en fait ? La folie des enfants m'intéresse.
Oui. Anne, dans Narcogenèse, on est dans un fantastique beaucoup plus onirique, là, puisqu'on démarre par ce personnage de Louise qui travaille dans un service de réanimation et qui est auprès des gens qui sont dans le coma et qui fait des rêves, part dans le monde des rêves pour essayer de les aider à franchir le cap entre la vie et la mort.
En fait, oui, c'est un thriller fantastique pour adultes, contrairement au Clairvoyage, qui est un livre vraiment jeunesse. Zette a le don de voyager dans les rêves. Or, elle ne peut pas voyager dans les rêves en soi, parce que comme les gens risquent de se réveiller, son esprit risque d'être emprisonné dans le leur. Donc elle a trouvé une espèce de solution par hasard. Elle est infirmière. Elle arrive à voyager dans l'esprit des gens qui sont dans le coma. Donc les gens sont dans le coma et ils recréent, sans savoir qu'ils sont dans le coma, un univers familier. Donc par exemple, pour un petit garçon, c'est une ville. Et ce qui est assez amusant, c'est que mon oncle, qui est réanimateur, m'a envoyé un article. Alors j'étais en train de l'écrire, j'avais déjà écrit cette scène de la ville dans laquelle l'esprit du petit garçon déambule. Et le titre de l'article, c'était voyager dans une ville inconnue. Donc on était vraiment vraiment pas loin. Donc Zette a ce don, et donc l'esprit des comateux est stable puisqu'ils sont dans le coma, donc elle peut voyager et elle les guide non pas vers la vie ou la mort, elle leur fait réaliser qu'ils ont le choix ou de se réveiller ou de mourir. Et un jour elle tombe sur ce marchand de sable qui la reconnaît. Elle, au début, elle est déstabilisée, elle ne sait pas ce que c'est que cette créature, et lui la reconnaît. Et Zed fait partie d'une famille particulière, d'une famille qui a l'air en soi très normale. C'est une famille de riches industriels pharmaceutiques, mais qui a vraiment une particularité. Ils vivent dans une maison qui s'appelle Le Chais, qui est une maison interdite. Personne n'a le droit d'y entrer. Il n'y a vraiment que les membres de cette famille qui est composée de femmes, essentiellement. Qui vivent là avec un jardin sauvage et un jardin en laisse, hein, c'est-à-dire aménagé, et ces deux jardins sont séparés par une barrière d'amandier. Et personne n'a idée d'aller au-delà de la barrière d'amandier. Il y a une espèce d'interdiction, de tabou là-dedans. Et Zette fait partie de cette famille particulière. Et parallèlement, il y a l'enquête policière d'un flic qui s'appelle Simon, qui n'a absolument rien de surnaturel, aucun don. C'est un labrador. Voilà, il est responsable par obligation, responsable de sa sœur, responsable de l'enfant de sa sœur, responsable du monde en général, et qui enquête sur des enfants disparus, des enfants de la DAS, donc des enfants qui ont une histoire très particulière. Et il se trouve qu'on retrouve dans le chai, au pied des amandiers, un des enfants disparus de la DAS. Et évidemment, les deux enquêtes parallèles se rejoignent à un moment. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de vraiment que Zette explore un monde fantastique par l'inconscient. Donc, on est effectivement dans une psychologie, même une psychanalyse dont parlait Mélanie. Donc, elle explore vraiment un monde des rêves. Et puis, évidemment, par moments, il y a des failles. Et le monde des rêves commence doucement à arriver dans le nôtre. Et c'est là où la terreur s'installe. Ça m'intéressait aussi d'explorer les peurs enfantines, parce que finalement, la peur de ce qu'on imagine est toujours pire que le risque lui-même. C'est vraiment le monstre sous le lit, ou le bonhomme nuit, ou le marchand de sable quand on le fait dévier comme je l'ai fait. C'est vraiment ça qui m'intéressait. Et utiliser des enfants parce qu'ils sont effectivement plus perméables à la peur et qu'il croit plus facilement aussi.
Il passe des frontières, je crois que c'est souvent ce qu'on retrouve, hein. C'est ce qui est vraiment intéressant dans le fantastique, c'est qu'on accepte de passer une frontière en fait. Et les enfants sont très promptes à le faire.
Oui, et puis moi j'ai conservé ça, à la différence de Loïc. Je contrôle mes rêves. Hein. J'ai appris il n'y a pas longtemps que c'était vraiment, qu'il y avait beaucoup d'écrits sur le sujet et je m'y intéresse petit à petit. C'est-à-dire que j'ai conscience que je rêve. Et j'ai gardé ça de l'enfance en fait, de cette malédiction, cette faculté, je ne sais pas, à vraiment contrôler. Mais c'est vrai que les enfants, on leur fait croire aussi. On accepte l'idée que les enfants croient plus facilement des choses. On leur fait croire au Père Noël, on leur fait croire aux cloches de Pâques, aux lapins de Pâques, selon les régions. Donc on leur fait croire à ça, donc ils ont cette habitude-là qu'on perd quand le quotidien est là et quand le quotidien nous bouffe et nous oblige à être responsable d'autre chose, à être responsable tout court. Donc voilà, c'était intéressant d'explorer vraiment ces peurs de ce qu'on imagine.
Alors je voulais revenir à Mélanie. Le fantastique a aussi ses grands maîtres. Et tu viens de faire un travail donc dans cet ouvrage Kadat, le guide de la cité inconnue, donc dans lequel quatre auteurs ont travaillé sur un hommage en fait à Howard Philip Lovecraft. Donc est-ce que tu pourrais nous parler de ce travail et de la manière justement dont ça s'est fait et le fait d'articuler le travail de quatre auteurs et en plus un illustrateur, donc Nicolas Fructus, qui a fait un travail absolument superbe dans cet ouvrage.
Alors, ce sera un peu long d'expliquer toute la genèse du projet, mais moi je suis arrivée la dernière en plus. L'équipe était déjà quasi constituée et ils avaient décidé qu'effectivement ce sera raconté par quatre personnages et que chacun serait incarné par un auteur. Et pour le personnage féminin, le seul personnage féminin de l'histoire, ils sont venus me chercher. Et le principe, c'était en fait de reprendre... Parce qu'en plus, j'ai énormément lu Lovecraft à l'adolescence, mais je n'avais pas lu ces textes du recueil Démons et Merveilles, qui se passent notamment autour de la ville onirique de Kadat. C'est l'histoire d'un explorateur des rêves qui s'appelle Randolph Carter, qui a aperçu une ville dans ses rêves, une ville mythique, qu'il va chercher à rejoindre. Et en fait, il n'y arrive pas, il passe par tout un tas d'épreuves et ce sont des tableaux qui sont quasiment oniriques. Il y a vraiment complètement une logique du rêve. C'est assez hallucinant, en fait, comme texte. Et l'idée, c'était de faire ce guide qui serait un peu guide historique et en même temps une suite de récits avec vraiment un début et une fin qui se situerait à Kadat. Donc quatre rêveurs se retrouvent, chacun pour une raison diverse et chacun d'une manière diverse, à Kadat. Ils viennent d'univers différents, ils viennent d'époques différentes et chacun d'entre eux se retrouve perdu dans cette ville onirique qu'on va ensuite décrire. Et quand je suis arrivée, on m'a dit que voilà, ils avaient déjà leurs trois personnages, dont deux étaient des personnages issus des textes de Lovecraft. Le troisième c'était un peu une mise en abîme, c'était soi-disant la voix de la personne qui prépare ce livre et qui expliquait, voilà, on écrivait ce guide et puis il s'est passé des choses bizarres. Il y a un peu un côté mise en abîme. Et le quatrième, on m'avait dit, on voudrait que tu incarnes une religieuse du XIIe siècle. Et si possible, si tu pouvais nous faire un évangile. Et la blague, c'était, bon, on va le faire en style biblique, comme ça, c'est plus drôle. Donc, le cahier des charges, c'était ça. À la fois, j'étais enthousiaste, parce que, bon, Lovecraft, c'est toute mon adolescence, et en même temps, ça m'emmenait plus sur un terrain qui était plus fantasy, finalement, que le fantastique de Lovecraft, tel que je l'aime. Mais j'ai décidé d'essayer. Et moi, j'ai juste... Alors, je suis arrivée là en disant, bon, d'accord, une religieuse du XIIe siècle, bon, j'ai jamais fait, mais pourquoi pas. La première idée qui me vient, c'est que je vais vous proposer une chose, c'est que je sais pas pourquoi elle est enceinte. Elle se balade dans cette ville et elle est enceinte d'un dieu. Lequel ? Alors moi, je voyais plutôt les grands anciens, les créatures vraiment terrifiantes de Lovecraft, et finalement, c'est pas ça. Donc je me retrouve avec ce personnage qu'on a appelé Sœur Aliénor, qui, une nuit, elle est dans son couvent, elle fait un rêve, elle est dans cette ville. Il y a des gens, des espèces de prêtres qui viennent la chercher. Elle apparaît sur une dalle en haut d'une colline. On l'amène dans un temple au bas de la colline, et dans ce temple, il y a un dieu. Elle s'accouple avec ce dieu, et voilà, elle se réveille dans son couvent. Elle retourne à Kadat et ses visites suivantes, elle est de plus en plus visiblement enceinte. Et des prêtres autour d'elle la préparent en fait à donner naissance à un dieu en lui expliquant que Kadat est rempli de dieux, ils sont partout, mais ils sont sombrés dans l'oubli. Ils sont en train de disparaître petit à petit et son rôle à elle, c'est justement de redonner naissance à ses religions. Et elle en fait une espèce de quête personnelle en fait. On m'avait dit en plus un autre personnage, je l'ai décrit comme folle, donc je pouvais y aller vraiment à fond dans le délire mystique Et mon fils va être le plus grand, le plus beau, le plus fort. Il va ressusciter Kadat, ça va être grandiose. Donc on est un peu parti là-dedans. Et les trois autres récits qui s'entremêlent avec celui-là sont complètement chacun autre chose. Donc moi, c'est marrant, je me suis entendue le décrire récemment dans une interview comme le seul texte vraiment de fantasy que j'ai écrit. Je le considère comme moins fantastique parce qu'il se passe quasiment... En fait, je ne suis pas du tout douée pour tout ce qui est historique. Donc je leur avais dit, d'accord, je vous fais la religieuse du XIIe siècle, mais à une condition, c'est que tout ce que je vais décrire se passera dans Kadat. Je ne veux pas avoir de description historique, j'en suis pas capable. Donc le couvent, il y a deux descriptions sommaires, mais tout se passe complètement dans ce voyage onirique. Voilà, c'est la condition que j'ai posée, c'est ce qui a dicté le texte. Et je ne me suis pas tenue au style biblique, mais ça a un petit peu guidé la manière dont c'est écrit. C'était assez amusant à faire.
Alors, tu parlais de Lovecraft comme étant une de tes références fantastiques étant plus jeune. Est-ce que tu as d'autres références ?
Des références qui m'ont vraiment influencée, je ne sais pas, parce que Lovecraft, ça reste et ça ressort dans quelques textes, mais ce qu'il fait est très différent de ce que j'ai fini par faire. Il y a Stephen King, je ne sais pas si ce que je fais se rapproche de ce qu'il fait, mais c'est vraiment un auteur que j'ai adoré adolescente et que je relis adulte. Pour moi, il a tout compris. C'est vraiment un de mes auteurs préférés. Et je suis amenée à beaucoup reparler en ce moment d'un auteur qui s'appelle Lisa Tuttle, qui n'est pas très connue en France. Elle a été publiée il y a une dizaine d'années en France, 15 ans peut-être. Elle n'a plus été publiée pendant longtemps et elle m'a énormément influencée. Je pense que mon style fantastique vient de ce qu'elle écrivait très clairement. Je l'ai lu adolescente et c'est resté. Et j'ai eu l'occasion tout récemment de choisir, en fait, sélectionner des nouvelles pour faire un petit recueil d'elles que j'ai traduit, présenté, et que j'aurai à vendre à partir de demain, d'ailleurs. Si des gens sont intéressés, je pourrai vous présenter le livre. C'est un auteur qui est très peu connu en France, mais qui, pour moi, était vraiment une révélation. C'est la première fois que je voyais quelqu'un faire des nouvelles fantastiques aussi percutantes, où, en fait, le fantastique part des failles humaines, comme la jalousie, le désir, des choses comme ça, et où des choses toutes simples comme ça peuvent devenir absolument monstrueuses. Elle a une manière de le faire qui est vraiment virtuose. Donc je suis amenée à beaucoup en parler parce que le livre en question vient de sortir. Et je pense que c'est la seule personne que je revendique comme une influence vraiment directe.
Et est-ce que parmi vous, autour de cette table, vous avez vous aussi des gens qui vous ont influencé et qui font que vous avez été amenée aujourd'hui à écrire du fantastique ?
Stephen King, évidemment, comme Mélanie, oui, évidemment. Anne Rice aussi, que j'ai découvert il y a une vingtaine d'années, si je ne dis pas de bêtises, à peu près, c'est ça, oui, dans les années 90, avec grand plaisir. Et puis, je vais terriblement gêner Mélanie, mais effectivement, en France, depuis 10 ans, Mélanie, énormément, qui est vraiment pour moi la grande demoiselle du fantastique. En France, et à côté de ça, beaucoup de choses pour la jeunesse, évidemment, puisque l'origine, c'est tout ce que j'ai lu enfant en fantastique.
Cédric ?
Oui, je pense que Stephen King, c'est le nom qui revient tout le temps, et en plus c'est marrant, quel que soit le style littéraire dans les nouvelles générations, je pense, d'auteurs, parce qu'il a quand même ouvert des portes, créé un marché, un genre. Moi, ce que je dis aussi tout le temps, c'est qu'il y a un auteur qui a un peu changé ma vie, c'est Clive Barker, avec des recueils de nouvelles aussi, puisque c'était les livres de sang dans les années 80. Au-delà de ça, en fantastique, il y a un Français que j'admire aussi qui s'appelle Serge Bruysolo, qu'on voit jamais sur les salons, mais c'est bien dommage. Je pense qu'il, dans les auteurs français, je pense qu'ils ont eu un imaginaire totalement débridé et qui, je pense, il me semble, a influencé pas mal de gens, il en fait partie, et je pense que j'ai beaucoup appris en termes d'écriture en le lisant. Après, il y a des gens qui le supportent pas, des gens qui le mettent sur un piédestal, mais il a un univers qui est vraiment très riche et très personnel, très obsessionnel. Voilà, essentiellement.
Loïc ?
Bon, alors je vais pas être très original, mais effectivement, Stephen King aussi. Je continue à le suivre d'ailleurs, parce que j'entends beaucoup de gens qui disent non, mais maintenant il écrit vraiment des pavés, des machins, et je trouve que c'est très intéressant son évolution, et j'aime bien lire ses dernières productions. Alors j'ai pas lu Dôme, mais je parle des précédents, et je trouve qu'il y a vraiment une évolution de la personne. Il est pas resté statique, il est pas resté à ce qu'il avait fait. C'est plus Christine, c'est sûr, mais je trouve que c'est vraiment intéressant à étudier son parcours. Et puis, moi, je suis fasciné aussi par Dan Simmons, qui C'est parce que j'aime beaucoup son éclectisme. Il est capable de passer du fantastique à la science-fiction en mélangeant un petit peu les deux parfois. D'ailleurs, aussi à du policier très réaliste. Il a écrit aussi un bouquin sur où l'un des personnages est Hemingway. C'est assez étonnant tout ce qu'il est capable de faire. En France, Pierre Bordage, que je suis aussi, mais depuis, c'est plus récent, honnêtement. Pendant des années, j'ai pas lu Pierre Bordage, et là, je suis en train de rattraper mon retard. Et lui aussi est capable de passer d'un bouquin à l'autre, d'un style à l'autre. Et c'est vrai que, ce qui compte avant tout, je pense, c'est de parler de l'humain, comme disait Cédric, d'avoir l'histoire, d'avoir envie de parler de certaines personnes, de certains thèmes, d'atmosphère. Moi, je suis très attaché à des atmosphères. Ça peut être la montagne, ça peut être la Bretagne, avec les mythologies qui peuvent aller avec. Alors, si ça évolue vers de la science-fiction, ben, c'est de la science-fiction. Parfois, c'est du fantastique. Je n'ai pas envie de me limiter à une catégorie.
D'accord. Sophie ?
Je suis la seule à ne pas avoir lu Stephen King alors, quand j'étais ado. En fait, je l'ai découvert avec les films Christine, etc. Enfin, tous les romans qui ont été adaptés. Mais non, et puis j'ai découvert Stephen King assez tardivement en tant qu'auteur et j'étais assez déçue par le style. Sans doute la traduction n'est pas bonne.
Sans doute la traduction parce que c'est un sacré styliste en anglais.
Ouais, donc enfin, moi j'adore. Ouais, j'ai pas lu en anglais, donc mais voilà, ce que j'ai lu m'a pas donné envie d'en lire d'autres. Je trouvais que c'était sans doute assez mal traduit, c'était une édition de poche. Donc je pense que c'est vraiment en tout cas quelqu'un qui était fait pour le cinéma et pour nous faire les pires frayeurs. Ce que j'ai lu étant enfant, c'est surtout des choses que j'ai entendues, parce que ma mère me lisait énormément de livres, à mon frère et à moi, et elle lisait vraiment énormément de choses. Donc je me souviens des contes fantastiques, notamment de la comtesse de Ségur, qui sont assez peu connus, mais qui sont vraiment effrayant. Ce qui m'a effrayé aussi beaucoup, c'est Alice au Pays des Merveilles. J'en faisais des cauchemars. Cette petite fille qui perdait tout repère était pour moi la pire chose qui puisse arriver. J'ai détesté le film de Walt Disney, par exemple. J'ai lu beaucoup Sherlock Holmes, j'ai lu beaucoup Maurice Leblanc, et chez Maurice Leblanc, il y avait des aventures un peu fantastiques. Je pense notamment à l'île des 30 cercueils, où on se pose des tas de questions pendant tout le récit, dont Arsène Lupin, d'ailleurs, est quasi absent. Donc j'ai lu énormément de choses, des romans surréalistes. Boris Vian est celui qui m'a le plus formé au fantastique, je pense, en tout cas à la fantaisie. Et puis j'ai surtout été nourrie de feuilletons télévisés. Par exemple, ça s'appelait Au cœur du temps, c'était une série dans laquelle deux personnages étaient perdus dans une espèce de chronosphère et voyageaient dans le temps. Ils se retrouvaient à n'importe quelle période, y compris des périodes futuristes. C'était des décors étaient en carton-pâte, mais c'était vachement intéressant parce qu'on revisitait l'histoire en plus. J'ai aussi beaucoup, beaucoup aimé Star Trek et j'ai suivi après toutes les séries suivantes. Parce que la série originale, en dehors du fait que le capitaine James T. Kirk a été sans doute mes premiers émois de amoureux, voire sexuels, n'ayant pas peur des mots, il était en permanence, il arrachait son, je sais pas, il y avait toujours un truc accroché là, donc à chaque fois il y avait le poitrail qui était. Donc ça, je pense que ça amène aussi des envies d'écriture. Et ce personnage-là, il était toujours amené à nous donner une leçon de vie. C'était presque Candide chez Voltaire, c'est qu'à chaque fois, il y avait deux extraterrestres, et il disait, mais nous sommes tous égaux, on dit, nous sommes différents, tu as quatre yeux, moi j'en ai que deux, t'as un cerveau comme ça, moi comme ça, mais on est pareil. Il y avait toujours un discours. Et ça, je trouvais ça vraiment très intéressant. Et puis j'ai aussi beaucoup aimé Les Mystères de l'Ouest, où là on était dans la fantaisie la plus pure, où le fantastique avec le docteur Loveless prenait des dimensions incroyables. Il y a même des épisodes avec la nuit des extraterrestres. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qui ont contrecarré une enfance qui n'a pas été facile, qui était une enfance pleine de tristesse et d'événements familiaux dont j'avais besoin de m'échapper, et ces livres et ces séries m'ont permis de construire un univers intérieur qui m'a amené plus tard à écrire des romans.
Ben merci. Le temps qui nous était alloué arrive à son terme, on l'a même un petit peu dépassé. Donc, en tout cas, même si le fantastique est une littérature qui est à à la frange des choses, qui contient de la terreur, on se fait peur, il y a des monstres, c'est onirique. En tout cas, n'hésitez pas à en lire, parce que le fantastique, c'est quand même que du bonheur quand on lit. Les auteurs sont à votre disposition à la Bulle du Livre en dédicace, donc n'hésitez pas à aller les voir, consulter leurs livres, achetez-les, lisez-les. Merci beaucoup pour votre attention.